Dans Matthieu 13, je l'ai dit ce matin, je le répète, je veux qu'on prenne notre temps là-dedans parce que c'est des, vous allez le voir en commençant à en parler du sujet. Il faut qu'on prenne le temps de bien expliquer les choses. Vous savez, c'est un sujet théologique très important. Le royaume de Dieu, c'est majeur dans la Bible. Parce que Dieu est le roi des rois, n'est-ce pas, le Seigneur des seigneurs. Et toute la Bible nous parle de son royaume. Et vous allez voir, même dans le message ce soir, on va couvrir pas mal de territoire biblique avec ce qu'on va considérer. À proprement parler, les versets du chapitre 13, tout ce qui est dans le sujet du chapitre 13, a une certaine spécificité quant au royaume de Dieu. Vous allez comprendre plus tard quand on voit ça, mais ce soir, on va faire plus une vue d'ensemble. Le royaume de Dieu, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il y en est? Puis, on va trouver la place de Matthieu 13 là-dedans. Mais c'est important parce que, je ne sais pas si c'est un sujet que vous connaissez bien, mais en tout cas, moi, de mon expérience, c'est pas nécessairement la chose la plus prêchée. Puis, est-ce qu'on connaît vraiment assez bien c'est quoi le royaume de Dieu, puis qu'est-ce qu'il y en est, puis tout ça? C'est pour ça que je pense que ça vaut la peine de s'arrêter pour effleurer le sujet ce soir, commencer à regarder ça. On va lire une couple de versets en rafale, OK? On va lire les trois premiers versets, puis ensuite, je vais vous en donner à mesure, on va juste aller voir, OK? Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit... Puis bon, là, il y a la parabole des semeurs. Regardez au verset 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. » Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Verset 31. Il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de senevée qu'un homme a pris et semé dans son champ. » Verset 33, il leur dit une autre parabole, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. » 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. » L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. 52. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit dans ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire... de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Vous avez vu à plusieurs reprises l'expression « royaume des cieux ». Ah, c'est-tu pareil? En fait, c'est synonyme. J'essaie de faire une distinction, vous n'irez pas bien loin, là. C'est synonyme « royaume des cieux », »,« royaume de Dieu ». Dieu est aux cieux, Dieu règne dans les cieux et sur la terre, donc c'est une expression synonyme. Donc, vous avez vu à plusieurs reprises, hein, et c'est pour ça qu'on appelle ça le chapitre 13 de Matthieu, les paraboles du royaume, parce que vous voyez comment il parle du royaume, de son royaume. Maintenant, littéralement, dans notre étude de Matthieu, on est rendu au cœur du livre, au centre du livre. Littéralement, si on prenait Matthieu, on le divise en deux, on dit, mais il y a 28 chapitres, mais grosso modo, là, dans ce qui a été dit, dans ce qui reste à dire, pas mal au milieu, puis aussi figurativement. Et je vous explique pourquoi. Non seulement le développement de l'histoire, des événements, de la vie de Jésus-Christ, comme Matthieu le relate, dans toute sa relation avec Israël et le leadership d'Israël, atteint un point crucial là, quand on est rendu au chapitre 13. Okay? Puis je vais vous expliquer exactement comment. Mais en plus, le développement du royaume... du récit là, dans Matthieu, tu sais, Matthieu nous présente Jésus comme... Jésus est présenté comment? Le roi. Ben oui, le roi d'Israël, OK? Et donc, Matthieu a une perspective vraiment unique pour nous présenter le roi et son royaume, OK? Et donc, ça atteint son point culminant rendu ici, dans le chapitre 13, et voici pourquoi, OK? On va faire une petite rétrospective. Écoutez bien, on va juste regarder comment les choses se sont développées dans Matthieu depuis le commencement dans cette perspective-là. Dans Matthieu 1, le roi légitime d'Israël est présenté comme étant celui qui est de la lignée de David, la lignée messianique. Dans Matthieu 2, Jésus reçoit la confirmation par les mages qu'il est le roi digne d'adoration et qui fait même trembler le roi Hérode. Dans Matthieu 3, le roi reçoit une autre confirmation par son prédécesseur, Jean-Baptiste, tel que prophétisé dans le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, Malachie. Chapitre 4, versets 5 et 6. Dans Matthieu 4, Jésus est présenté comme le roi conquérant, hein, qui triomphe du prince de ce monde, qui a essayé de le faire tomber. Dans Matthieu 5 à 7, Jésus parle comme étant le roi avec autorité. Et il parle des rois et des lois, pardon, et des principes de son royaume dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Dans Matthieu 8 à 10, Jésus-Christ est authentifié comme un roi par beaucoup de miracles qu'il fait et qui prouve qui il est. Beaucoup de miracles dans les chapitres 8 à 10, on a déjà vu ça. Qui prouve qui il est et ce que les prophètes ont dit de lui. OK? Dans Matthieu 11, on est face à une preuve encore plus grande, une preuve grandissante que Jésus est un roi divin. Et le roi légitime d'Israël qui rejette son roi. C'est de plus en plus clair dans Matthieu 11, le rejet du roi. Et Israël, qui est aveuglé face à leur roi, il le rejette et Jésus dénonce cela. Il dénonce le rejet obstiné d'Israël dans le chapitre 11. Mais dans sa grâce, n'est-ce pas merveilleux que dans chapitre 11, on a une des plus belles invitations de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. « Venez à moi ». C'est dans le contexte de gens qui le rejettent religieusement. Ils choisissent la religion au lieu de leur roi. Mais ce même roi les invite à eux. Dans Matthieu 12, et là on est pas mal proche de ce qu'on vient de considérer, là, on sort du chapitre 12, on vient juste de voir récemment que le rejet de ce roi a atteint un sommet vraiment inégalé et que là, le jugement a été prononcé. Je vous explique, le leadership spirituel d'Israël, les scribes et les pharisiens, expriment le rejet de façon très claire en associant Jésus. OK, il y a toute la question du sabbat, on a vu ça, mais aussi en associant Jésus à Belzébul, à Satan lui-même. OK? Mais encore là, Jésus aussi les avertit. Puis dans le fond, il leur dit, vous êtes passé au point vous êtes passé au point où est-ce que vous ne serez plus pardonné si vous restez là-dedans. Puis c'est là qu'il parle du fameux péché contre le Saint-Esprit. OK? Il dit, si vous rejetez le témoignage que le Saint-Esprit donne de qui je suis par les miracles que je fais, vous scellez votre destin, vous scellez votre rejet. Il n'y a plus de pardon pour vous si vous rejetez ce témoignage final. Et on vous rappelle, on a fait le parallèle, le péché, le Saint-Esprit, celui qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Il montre à ceux qui entendent l'Évangile que Christ est bien le Sauveur, qu'il est le seul Sauveur. Et si quelqu'un rejette ça, lui aussi, ça ne peut pas lui être pardonné parce qu'il rejette le témoignage ultime de Dieu à son cœur même que Jésus est le Fils de Dieu. S'il demeure dans cette tête d'incrédulité, il rejette le Fils de Dieu que le Saint-Esprit lui-même lui présentait. Il ne peut pas être pardonné. Pourquoi? Parce qu'il rejette le seul qui pardonne. C'est ça ici l'idée. Et c'est ce que Jésus a souligné lorsqu'il était sur terre. Mais encore là, le chapitre 12 finit avec une invitation aussi. Et tout ça nous amène au chapitre 13, où on est rendu ce soir. Et où Jésus va parler énormément du royaume de Dieu, évidemment. Dans ce contexte où il est rejeté comme un roi, c'est ça qu'il faut comprendre. Jésus m'a parlé du royaume comme il n'en a pas parlé avant. Bon, on peut dire que dans le sermon sur la montagne, il y a beaucoup de références au royaume, et il parle comme un roi. Mais ici, c'est sans ambiguïté, c'est très clair. Et vous savez que les deux sont indissociables. Tu ne peux pas avoir de roi sans royaume, puis un royaume pas de roi, c'est pas un royaume. OK? Ça va ensemble. Fait que là, Jésus, il met ça au clair. qu'en rejetant leur roi, Israël devait voir, puis c'est le but du chapitre 13, qu'ils rejetaient le fameux royaume qui a été promis partout dans l'Ancien Testament, le royaume davidique, le royaume messianique, que Jésus lui-même, le Messie lui-même, est venu leur offrir. Alors, la grande question qui surgit, face à cette situation déplorable, là, hein, Dieu, dans sa grâce, qui vient à son peuple pour se présenter comme leur roi, pour leur donner le royaume, la question c'est, qu'est-ce qui arrive avec le royaume si ceux à qui il a été offert l'ont rejeté? Ben, la réponse, essentiellement, c'est le contenu du chapitre 13. Donc, ça, on ne va pas juste le répondre ce soir, mais en bref, la réponse à la question, qu'est-ce qui arrive au royaume si ceux qui se le sont fait offert l'ont rejeté? C'est que la promesse du royaume terrestre d'Israël, OK, elle est toujours valide. Parce que, hey, les prophètes en parlent tellement que Dieu va régner depuis Jérusalem. C'est un règne terrestre, le règne terrestre de Christ, OK? La promesse est toujours valide, elle est toujours là, mais son accomplissement a été remis à plus tard, OK? C'est-à-dire, après les 7 ans de tribulation, ça va être instauré par Jésus lui-même à Jérusalem lors de sa 2e venue. OK? Donc, la promesse n'est pas annulée. Elle est retardée. OK? Mais croyez-le ou non, si Israël avait accepté Jésus comme roi, le royaume aurait commencé là, puis Jésus aurait été proclamé comme ça parmi toutes les nations de cette façon-là. Mais bon, évidemment, Dieu savait tout ça, là, mais tu sais, l'offre était authentique, mais ils l'ont rejetée. Et donc, Jésus, après sa 2e venue, là, il va régner pendant 1000 ans dans des conditions qui nous rappellent celles d'avant le déluge, la longévité de vie et une paix. Ça dit, puis ça, c'est prophétisé entre autres dans Ésaïe 11. Écoutez, j'ai juste pris un verset là. On aurait pu lire Ésaïe 11 au complet, mais ça dit le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Ça nous dit que quelqu'un qui va mourir à 100 ans va dire hey, c'est pas normal, tu meurs jeune. Puis la longévité va revenir comme avant le déluge à 900, dans les 900 ans. OK? On ne sait pas comment, mais Dieu va faire ça. OK? C'est ce qui est prophétisé. Puis à ce que je cherche n'est pas arrivé, puis à ce que je cherche. En tout cas, on va parler tantôt de la symbolique. Je ne vais pas me devancer sur ce que je dis, mais bon. C'est ce qu'on attend. C'est pas arrivé. OK? Tout le monde est avec moi encore? J'ai pas de... OK? On comprend pourquoi Jean-Baptiste et Jésus-Christ, les deux, avaient le même message. C'est quoi qu'ils prêchaient? On a vu ça. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Il venait l'offrir pour de vrai. S'il avait accepté, il l'aurait eu là. Mais vu, OK, c'était comme le plan initial de Dieu de donner son royaume à Israël et de régner à travers cette nation là, dès sa première venue et ainsi étendre sa bonté, sa grâce à toutes les nations. Donc, la promesse du royaume terrestre subsiste toujours, même si elle a été retardée. Puis je veux juste vous en donner quelques extraits, entre autres dans Zacharie, mais aussi dans le Nouveau Testament. Promesse sur le royaume qui est à venir. Dans Zacharie 12:10, ça dit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils se tourneront vers moi, celui qu'ils ont percé. » Ça, mes amis, c'est clair que ça parle de Christ et c'est clair que c'est pas arrivé. « Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Zacharie 13:1, « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » Écoutez ici Romains 11:25-26, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Ça parle de notre époque en ce moment, soit entrée dans l'Église. « Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » C'est encore à venir, ça. OK? Bon. Ah, puis aussi, tiens, un autre petit tant qu'à y être, Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais, voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans les mains. Et ça, ça l'inclut Israël. Donc, Dieu n'a pas fini avec son plan pour Israël. Maintenant, ça c'est clair, ok? Le royaume est encore offert, il est encore bon. La promesse est juste retardée, ok? Et dans ce cas-là, comment les paraboles du royaume de Matthieu 13, qu'on s'apprête à considérer ensemble dans les prochains messages, comment est-ce que c'est pertinent pour nous autres? Si la promesse du royaume était pour Israël, qu'est-ce qu'on... Où qu'on fit, nous, les païens, là-dedans, comme on vient de voir, là, les païens qui vont... OK, c'est quoi au juste que ça veut dire pour nous? Merci de le demander, je suis content, parce qu'on va pouvoir répondre à la question. Les paraboles de Matthieu 13 expliquent ce que les théologiens appellent la parenthèse entre l'offre du royaume de la première venue qui a été rejetée versus son instauration, qui est l'offre, parenthèse, instauration. Grosso modo, 2000 ans de parenthèse. Là, c'est une longue parenthèse. Là. Quand je, si vous faites une conversation avec quelqu'un, ne faites pas une parenthèse de 2000 ans. Ça se peut qu'il s'endorme sur votre conversation. Okay? Ou qu'il meure même sur votre conversation. À moins d'être dans les conditions du royaume. Là, en tout cas, là, je délire. Là. Qu'est-ce que je disais? Donc, oui, la parenthèse entre l'offre du royaume puis rejetée par Israël et son instauration lors de la deuxième venue après la grande tribulation. Cette parenthèse, c'est quoi? C'est la période de l'Église. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment et c'est un mystère. C'est ce qu'on a vu dans Romains à plusieurs autres reprises. Dans le Nouveau Testament, on voit que l'époque de l'Église, c'est un mystère. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, ils ne savaient pas. Ils connaissaient leur royaume puis ils savaient que le Messie allait régner. Mais ils n'ont pas vu cette parenthèse. Personne. Puis ce n'est pas parce qu'ils étaient nonos, c'est parce que Dieu ne l'avait pas révélé. C'est un mystère. Et Matthieu 13, c'est la première révélation développée de ce mystère par Jésus lui-même. Puis il parle en termes de royaume. Okay? C'est un mystère caché, qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament, mais qui est révélé par Jésus lui-même. Regardez ce que ça dit dans Marc 4, 11. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. » Donc, Jésus révélait des choses qui n'étaient pas cachées. Puis, il dit aux disciples, à vous, c'est révélé. Ils ont eu, eux autres, la révélation du mystère du royaume de Dieu. Ce mystère-là, c'est l'Église. Et on peut dire que dans Matthieu 13, c'est là qu'il y a le plus de détails de la bouche de notre Seigneur Jésus. Et vous savez, Jésus a commencé à parler de l'Église de façon un peu embryonnaire. Il en a parlé, hein, il dit... il parle de ce concept d'ecclésia, d'assemblée, sur la discipline dans Matthieu 18, sur aussi les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles dans Matthieu 16. Donc, Jésus a commencé à en parler, mais évidemment, dans les épîtres, spécialement celles de Paul, on a beaucoup, beaucoup plus de détails. Maintenant, j'ai dit que j'allais en parler. Il y a une chose qui frotte maintenant entre nous qui sommes dispensationalistes et ceux qui sont de la théologie de l'Alliance. OK? En gros, les gens qui sont de la théologie de l'Alliance disent que le règne de Jésus de 1000 ans, c'est en ce moment. C'est figuratif. Que Jésus règne maintenant, puis on n'a pas à attendre un règne millénaire littéral pour Israël. Nous, on croit en tant que dispensationalistes, exactement ce que je viens de vous expliquer là, qu'il y a un règne littéral qui a été promis, qui a été rejeté, puis qui va être accompli, mais après la période de l'Église. Okay? Puis je suis... de cette position de conviction, parce que je crois vraiment que c'est en lien avec toutes les Écritures, puis vous allez voir un peu pourquoi c'est ce qu'on croit. En tout cas, moi, là, j'espère que vous autres aussi, mais bon, sinon Dieu va vous éclairer là-dessus. OK. Donc, la question ici, comment il peut avoir un royaume en ce moment si le roi est absent? Comment t'appellerais-tu un royaume? N'est-ce pas un royaume purement spirituel, justement? Voici comment vient l'idée. La réponse à cette question, il faut prendre le temps de bien l'expliquer pour bien comprendre. Notre roi est absent en ce moment physiquement. Mais est-ce qu'il est complètement absent? Ben non! Le Saint-Esprit, il n'est pas absent. OK? Jésus est au ciel à la droite de Dieu, dans la position d'autorité au trône. Mais il est non seulement avec nous, mais il est en nous, son Église. Et donc, son règne est bel et bien là en ce moment. Il règne. OK? C'est même la puissance qui retient les forces du mal dans ce monde. C'est pas un hasard que la chose qui est attaquée dans nos églises, c'est l'unité. Parce que ça brise la puissance spirituelle de l'Église. L'Église qui n'est pas dans l'unité, l'Église de Jésus-Christ, son corps et des églises locales comme nous autres, lorsque l'unité est brisée, c'est la puissance spirituelle qui est brisée. Cette puissance restrictive du mal. On va donner un peu plus de détails aussi là-dessus, juste dans un instant. Donc oui, notre roi est absent physiquement, mais il est là par son Saint-Esprit. Il règne dans la vie de ses enfants et à travers ses enfants. Juste là-dessus, un petit passage, ça dit que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Ça nous dit ça dans Apocalypse, chapitre 1, mais aussi au chapitre 5, verset 10. Il a fait de nous un royaume. Okay? Nous sommes le royaume de Dieu sur terre. Pas si vous êtes familier avec le concept, mais c'est un concept biblique. OK? Maintenant, là où toute la théologie de l'Alliance, selon moi, fait erreur, c'est qu'elle affirme que c'est ça le royaume de mille ans. Ce qu'on vit en ce moment, c'est ça le royaume de mille ans. Puis ils disent, ben pour un Dieu, mille ans, une journée, c'est comme mille ans. Fait qu'ils disent, tu sais, ça fait 2000 ans, mais dans le fond, c'est tout figuratif. OK? Puis attention, quand tu pars sur le figuratif avec la théologie de l'Alliance, tu ne pars pas à peu près. Parce que non seulement pour ça, mais pour toutes les prophéties de l'Ancien Testament sur le royaume de millénaire de Christ, il faut toutes les spiritualiser. Comme ce que j'ai lu dans Ésaïe, il dit non, ça arrive en ce moment dans l'Église. Les spirituels, il faut faire une gymnastique théologique pour arriver à cette position. Il faut allégoriser énormément de promesses à Israël dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau, comme Romains 11, ils ont bien de la misère avec ça, eux autres. Okay? Pour ça, je pense que ce n'est pas consistant avec l'ensemble des Écritures. Mais maintenant, voici l'explication de ce que nous, dispensationalistes, nous croyons être le plus en harmonie avec l'ensemble des Écritures et qui honore, je crois, ce que Paul a dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point rougi, qui dispense, qui divise, comme une tarte bien divisée, qui dispense droitement la parole de vérité. » D'abord, oui, le roi est absent physiquement, mais sa présence spirituelle est tout à fait réelle et elle porte du fruit. Ça dit ça, n'est-ce pas? Elle porte du fruit dans le monde par l'Évangile, ça dit ça dans Colossiens. Et donc, le roi laisse sa marque. Le roi montre sa présence à travers son corps. Et le royaume est donc bel et bien là. Mais comme Jésus l'a dit, pas de façon à frapper le regard. Le royaume de Dieu de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici, il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, 20 à 21. Je vous l'illustre de façon bien simple avec le roi David encore. Merci, le roi David. C'est deux fois qu'il nous sert d'illustration aujourd'hui. Vous savez, il y a une petite... C'est pas un très, très long temps, mais le fils Absalom, son fils Absalom, ça n'allait pas très bien, mettons, avec Absalom. Là. Absalom voulait usurper la place du roi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a réussi pendant un bout de temps. Donc, David a dû quitter... Je ne sais pas si vous vous rappelez, là. Okay, c'est dans 2 Samuel, chapitre 15 à chapitre 17. Absalom prend le pouvoir par la force, la tromperie, puis tout ça, puis le roi David, qui est rendu vieux, doit quitter avec son entourage, quitter Jérusalem, OK? Puis il revient éventuellement. Mais c'est eu tout le temps qu'il était parti. Même si son fils voulait prendre sa place, OK? Puis il est parti parce qu'il voulait pas se faire tuer. Ça aurait été une insurrection. Il est resté le roi, et le royaume est resté aussi le sien. OK? Il n'a rien perdu, il est juste parti. Mais de la même façon que David a éventuellement repris le trône, qui était le sien de façon légitime, parce qu'il demeurait le roi, même en son absence, il est séparé. Jésus-Christ, il est absent, il est monté au ciel. Mais ce qu'il a conquis à la croix, ce qu'il est venu reprendre qui avait été volé par Satan, là, c'est encore à lui de façon légitime, même s'il n'est pas là. Bon, c'est un peu plus long qu'avec David, là. Ça fait 2000 ans. Mais c'est le même genre de situation. Il est absent, mais toujours, il est le roi et son royaume est toujours le sien de façon légitime aussi. Et là, je vais amener une autre explication. Il faut faire une distinction importante ici sur la nature du royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? OK? Ce soir, je vais amener des affaires importantes, puis j'amène une application finale très importante ce soir, mais il faut comprendre les choses quand on parle du royaume de Dieu. D'abord, vous savez qu'il y a le royaume universel de Dieu. OK? Ça réfère au fait que Dieu règne sur toute chose, sur toute personne, depuis toute l'éternité. Que les gens le veuillent ou non, ses ennemis, ses amis, Dieu règne. Je vous donne une couple de références là-dessus. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Il règne, et son règne, pardon, domine sur toute chose. Là, c'était psaume 29, 10, puis psaume 103, 19. Maintenant, 1 Chronique 29, 11. « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. » À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. OK? Ça, c'est le règne universel de Dieu. C'est-à-dire, c'est absolu. OK? On s'entend là-dessus. Maintenant, autant le règne de Dieu est clair et indiscutable, il y a un autre niveau de son règne que les théologiens encore appellent le règne. Puis là, ça fait un gros mot, mais je vais l'expliquer, c'est pas bien. Le règne méditorial. Ça veut juste penser à médiateur. C'est le règne qui se fait à travers un médiateur, à travers un intermédiaire. Ou plutôt, le règne de Dieu à travers l'instrumentalité, la médiation humaine. OK? Savez-vous que ça a commencé avec Adam et Ève? Dieu dit, allez, multipliez, puis dominez. OK? Mais qu'est-ce qui est arrivé? On connaît l'histoire. Ils sont fait voler ce règne-là. OK? Satan a volé le règne par la tromperie. Bon, ils l'ont donné volontairement, puis bon, mais... Donc, ce règne-là, boum, perdu, OK? À cause de la chute. Ils l'ont donné à Satan, qui les avait trompés. Par la suite, Dieu a quand même a continué son règne. Bon, la croix n'était pas encore là, la rédemption, le rétablissement n'était pas encore là, mais Dieu a utilisé les patriarches comme intermédiaires dans la période de l'Ancien Testament. Ensuite, les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Dieu régnait à travers ces personnes-là. Ça, c'est le royaume méditorial, par le médium, par le moyen, l'intermédiaire de ces personnes-là. Puis l'ensemble de l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça nous montre? C'est un règne imparfait, même corrompu. Ça ne va pas très bien, l'histoire. OK? Ça montre comment l'homme n'est pas fait pour régner. C'est pas lui. OK? C'est juste des défauts qu'on voit dans cette affaire-là. Juste des problèmes. À cause du péché. Et voilà pourquoi le Nouveau Testament nous présente ce règne par la médiation du Fils. Ah! Notre roi, prophète et prêtre, parfait! Lui est digne de régner et lui règne parfaitement. Mais il a été rejeté. Il a été rejeté par le peuple qui l'a engendré. Humainement. Et donc, après avoir accompli son œuvre sur terre, après son ascension, être monté dans les cieux et s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, il a confié cette médiation du royaume aux apôtres et aux prophètes. Écoutez deux versets là-dessus. Paul, à la fin, le dernier chapitre du livre des Actes, ça dit qu'il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Et ses apôtres et ses prophètes sont le fondement. Jésus est la pierre angulaire et c'est le fondement de l'Église. Ça dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 20. Écoutez aussi, tant qu'à être parti, Éphésiens 4, 10 et 11. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, on voit cette structure de l'Église qui a été établie sur le fondement Jésus, la pierre angulaire, puis ensuite les apôtres, les prophètes, et sont venus ensuite les évangélistes et les pasteurs, docteurs, ou pasteurs et enseignants. Maintenant, c'est comme ça que Jésus règne au moyen des chrétiens qui sont habités par son esprit. Maintenant, voici l'application. Il y a beaucoup d'applications, mais c'est nécessaire. Mais aussi, c'est quoi ça veut dire? Nous sommes les agents, nous sommes les intermédiaires de Dieu en prêchant sa parole, en manifestant sa sainteté, en apportant la valeur, la présence de Dieu, sa voix, sa volonté aux hommes autour de nous. On apporte le royaume de Dieu. Quand on apporte l'Évangile, quand on laisse la lumière de Dieu briller à travers nous, c'est en tant que représentant du royaume de Dieu. Bibliquement parlant, c'est ça. C'est ce que l'Église fait sur terre. L'Église est l'instrument du royaume de Dieu sur terre en ce moment. OK? Du royaume, pas littéral, sur terre de 1000 ans avec Christ, parce que ça, on l'a vu, mais... Tu sais, le royaume de Dieu n'est pas en congé. Dieu continue à régner. Il le fait par notre intermédiaire en ce moment. Voyez-vous? Ça s'est tout développé dans le plan de Dieu et on est rendu là. Maintenant, voici ce avec quoi je veux terminer ce soir. Parce que dans les prochains messages, on va aller plus en détail vraiment dans Matthieu 13, là, et son importance dans le Nouveau Testament, puis tout ça, sa place. Mais dans les temps que nous vivons, combien il est important, il est, je dirais même, vital, que nous nous rappelions qu'on est les agents du roi pour proclamer et répandre, étendre son royaume sur terre. C'est tout qu'un mandat, ça, là. C'est ça le plan de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les héros des temps modernes. Puis quand je dis héros, c'est pas avec R-O-S, c'est... A-A-U-T, Herald, OK? Les proclamateurs. C'est un cantique qui parle de ça, d'être les héros. Il y a une couple de cantiques qui l'emploient. Et nous le sommes sur une terre maudite et sous l'emprise, l'empire du malin. Mais que notre roi est venu reconquérir. Jésus est venu reconquérir ce qui avait été perdu à la chute. Et sur laquelle il a décidé de nous laisser en ce moment pour exercer son règne à travers nous. Let that sink in for a moment. Laissez ça rentrer là. Dieu veut exercer son royaume à travers nous. Nous? Oui. Parce que c'est comme ça qu'il accomplit ses desseins, puis qui se glorifie. Je veux vous lire une couple de versets par rapport à ça. Écoutez 1 Corinthiens. D'abord, chapitre 1, versets 30 à 31. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Écoutez aussi 2 Corinthiens, chapitre 4. Versets 4 à 7. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Puis écoutez maintenant le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est tout par design cette affaire-là. Et finalement, écoutez toujours dans 2 Corinthiens, mais chapitre 12, versets 9 et 10. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça le but. Dieu exerce son règne à travers des vases de terre, à travers des gens bien ordinaires. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Pourquoi? Pour que celui qui se glorifie dans le Seigneur, puis que toute la gloire, toute la puissance soit attribuée, non pas à nous, mais à Dieu. Donc oui, Dieu règne à travers nous, parce qu'il veut la gloire, parce qu'il veut se montrer comme étant ce grand Dieu incomparable. Et vous savez que notre roi, c'est aussi notre tête. Quand on parle de l'Église, il est la tête de l'Église, la tête du corps. Et que nous sommes sous sa puissance d'influence et qu'ainsi, nous sommes dans ce monde, je le disais tantôt, la puissance d'influence pour le bien, pour ses plans ici sur terre. Parce que à travers nous, son Église, il retient la puissance du monde par le règne qu'il exerce à travers nous. Je vous lis à ce sujet-là, hein, probablement vous connaissez ce à quoi j'allais référer maintenant, mais 2 Thessaloniciens 2,7, ça dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà ». Croyez-vous ça? Oh mon ami, il agit pas à peu près. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui habite tous les croyants qui habitent l'Église. Quand l'Église va être enlevée, la présence restreignante comme ça du Saint-Esprit à travers nous autres, ça va être enlevé. Puis mon ami, c'est pour ça que c'est pas beau quand on lit l'Apocalypse. Parce que cette puissance qui retient le mal, elle va être enlevée. Puis en plus, il va y avoir un esprit d'égarement qui va être envoyé. Autrement dit, nous sommes le royaume de Dieu sur terre en ce moment. Vous dites, c'est bizarre, voyons donc, on n'a pas de la... C'est comme ça, c'est ce que la Bible dit. Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et notre rôle premier, c'est de le laisser régner. Parce que c'est lui qui fait tout le travail, c'est lui le roi. On est juste des intermédiaires. On est juste des vases de terre, des instruments. Puis il l'a voulu ainsi, que ça nous plaise ou non. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et voici là où le bas blesse, ou comme diraient les Anglais, là où le pneu touche l'asphalte. J'ai cité ce matin Deutéronome 32-51, je vous le recite juste pour vous rafraîchir la mémoire, parce que c'est Dieu qui parle à Moïse sur la sentence, pourquoi il n'est pas rentré en terre promise, lui et Aaron. Il dit « Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. » Mes amis, laisser Dieu régner à travers nous, c'est s'assurer qu'on le sanctifie comme étant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Quelle occasion meilleure qu'en ce moment! N'est-ce pas qu'on est en train de dire que Jésus-Christ est Seigneur? Au-dessus de César, au-dessus des princes de ce monde, des autorités qu'on a. Et on dit ça humblement, pas dans un esprit de rébellion comme on voit dans le monde. Mais mes amis, on ne fléchit le genou devant qu'un seul Seigneur, parce qu'il y en a un seul. Et on n'a pas cette liberté de fléchir le genou devant quiconque d'autre. C'est comme ça que Dieu exerce son royaume à travers des gens comme nous, juste en fléchissant le genou. On n'a pas besoin d'être fort. En fait, il faut qu'on soit faible. Puis c'est comme ça que sa force s'accomplit. C'est comme ça que ça marche, le royaume de Dieu. On parlait de contre-intuitif la semaine passée. J'en reparlais un peu ce matin. Complètement contre-intuitif. Mais c'est comme ça que Dieu marche. C'est comme ça que son règne s'exerce en ce moment sur terre. Et donc, on est appelé à sanctifier Christ dans nos cœurs, hein, comme ça dit dans 1 Pierre. Ben, je l'ai lu ce matin. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande de l'espérance qui est en vous. » Mais aussi comme famille, comme Josué l'a dit, dans Josué 24:15, « Et si vous trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Mon ami, ça a été écrit il y a des milliers d'années, et ça pourrait être le message de tout, pour toutes nos églises aujourd'hui, toutes nos familles. Où les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, où les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Autrement dit, moi et ma maison, on va fléchir le genou devant un seul roi, parce qu'il est le seul légitime devant lequel on fléchit le genou. Maintenant, comment on fait tout ça? En se confiant en Dieu, dans sa sagesse, dans sa parole, pour répondre à ce qu'il nous envoie. On ne sait pas trop ce qui va arriver, vous savez quoi? Si on cherche à plaire à Dieu, si notre souci premier, c'est de sanctifier Dieu au milieu de notre assemblée, au milieu de notre famille, dans nos cœurs, si c'est ça notre souci, c'est tout ce que Dieu demande. Il veut être montré comme étant ce qu'il est réellement, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et qu'est-ce qu'on fait devant quelqu'un de même? On fléchit le genou. On fait juste s'humilier. Et il nous dirige. Et contrairement à Moïse à Meriba, si on lui obéit comme ça, sans compromis, les pharaons de ce monde peuvent essayer de faire ce qu'ils veulent. Nous dire qu'on ne peut pas se rassembler, qu'on ne peut pas adorer comme ci, comme ça, on ne peut pas voir quelqu'un, on ne peut pas faire qui, quand, quoi, comment, puis tout ça. C'est pas là qu'est notre confiance, c'est pas ça qui nous dérange. C'est le seul qui peut nous dire, c'est ça qui est notre souci. Parce que notre confiance n'est pas dans l'obéissance à l'homme, dans ces choses, mais dans l'obéissance à Dieu, devant qui on va rendre compte. Et il est supérieur. Et quand il contredit ce que l'homme dit, on obéit à celui qui est supérieur. Alors, pourquoi ne pas ce soir renouveler devant Dieu cette confiance, cette assurance, comme l'ont fait les apôtres dans le livre des Actes? Et je termine en citant le verset, puis on va prier. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour que se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Merci Seigneur que tu es un Dieu souverain, tu règnes, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et on veut se soumettre à toi simplement, Seigneur. Oui, tu vois les menaces. Tu vois nos frères et sœurs aussi qui, beaucoup sont dans des situations pires que les nôtres, Seigneur. Et on prie, on veut réclamer ce verset de ta parole, que tu nous donnes d'être remplis d'assurance, remplis de ton esprit, remplis de ta parole. Et oui, Seigneur, que tu fasses des grands prodiges, des choses surnaturelles, sauver des gens, donner un courage surnaturel à ton peuple. Et merci, Seigneur, que tu es le même Dieu duquel on vient juste de lire dans ta parole. Tu n'as pas changé. Et tu es encore celui qui fait les choses surnaturelles, des choses grandes et cachées qu'on ne connaît pas, des choses bien au-delà de tout ce qu'on demande ou même ce qu'on pense. Oui, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen.